Bonjour à tous, vous allez bien? C'est bien. Je voudrais remercier tous ceux qui ont écouté le message où je faisais un appel d'argent pour ma mission en février. Merci beaucoup pour tous les dons que vous avez envoyés. Vous pouvez continuer à envoyer parce que plus il y aura, plus on pourra faire de choses importantes. Là, ça y est, les dates sont arrêtées. Je m'en vais le 20 février. D'abord pour faire un séminaire de 3 jours avec des pasteurs tous les matins. Je devrais enseigner ces pasteurs au sujet des 7 sceaux, des 7 âges et de toutes ces choses-là que j'ai déjà enseignées un peu partout. Mais là-bas, je n'ai jamais enseigné cela. Et ensuite, chaque soir, il y aura une réunion d'évangélisation, de salut et guérison. Et puis, la semaine d'après, dans une autre église, une des plus grandes églises là-bas d'Abidjan, chez le pasteur Blé, je ne sais pas si tu m'écoutes, et là, ça sera des réunions d'évangélisation tous les jours, salut et guérison, et voilà. Donc, priez pour nous, priez pour moi, priez pour que ça se passe bien, et continuez d'envoyer des dons. Alors, vous avez vu sur la première page de C'est faisable. Il y a un petit truc jaune, c'est écrit PayPal dessus, vous pouvez envoyer, c'est sécurisé. Et voilà. Alors, il y a des gens, et je trouve que c'est très bien, il y a des gens qui s'abonnent, c'est-à-dire ils s'abonnent pour que chaque mois, ils aient un prélèvement de 10 euros, ou de 40 euros, ou de 20 euros. Et c'est bien parce que ça donne une idée de ce qu'on va pouvoir gérer comme bien pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alors, merci à ceux qui ont pensé à prendre cette option-là. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, l'homme qui me reçoit là-bas, la première semaine, donc à partir du 20, je commencerai le 21 au soir, le 21 au matin, pardon, là, c'est le prophète Lévi. Et le prophète Lévi, c'est lui qui, alors que j'étais en pleine chimio, en pleine radiothérapie, affaibli, mal, très très mal, c'est lui que j'avais eu au téléphone et qui m'avait prophétisé que j'allais être guéri. Et pour me prouver que ce qu'il disait était vrai, il m'a dit, je vois que vous avez un sponsor, pas un sponsor, un mentor, l'homme de Dieu qui influence votre vie, c'était El Osborne, il est à côté de vous. Je le vois là avec vous. Et je vois aussi que vous faites de la musculation. Je vois qu'il avait décrit le château, enfin voilà, et plein d'autres choses qui sont personnelles, mais très très belles. Donc c'est un prophète de Dieu, et j'ai été prêcher chez lui, c'était, je sais plus quand, au mois de mai l'année passée, je crois. Et il y avait eu des bénédictions merveilleuses, et il m'a réinvité. Nous sommes en train de devenir des amis, et c'est une bonne chose. Et lui, c'est un vrai prophète. C'est pas un raconteur d'histoire. Vous savez, ça fait plaisir de pouvoir connaître les ministères, parce que dans les églises à l'heure actuelle, on voit surtout des pasteurs, des évangélistes, mais où sont les prophètes? Alors évidemment, les faux prophètes, ça, j'ai une flopée, mais les vrais prophètes, mandatés par Dieu, quand ils disent quelque chose, ça arrive, bon, on ne voit pas des masses, hein, vraiment pas des masses. Et on entend et on voit toutes sortes de gens, de choses sur YouTube épouvantables, des chrétiens qui disent n'importe quoi. Et pendant des années, j'ai dit, je ne veux pas être vu dans ce dépotoir. Je nommais YouTube le dépotoir. Et c'est infernal. Et je résistais, je disais, non, 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 je ne veux pas être là-dessus, je ne veux pas être là-dessus. Puis finalement, le Seigneur m'a conduit différemment de ce que je pensais. Et maintenant, les choses sont un peu différentes. Et dans ma pensée, j'ai compris des choses. Et je pense que, en fait, Dieu connaît les siens et il connaît son troupeau. Et il saura guider ceux qui cherchent. Il saura les guider à trouver ce qui est bon, puis à rejeter ce qui est mauvais. Mais je crois que le Seigneur veille sur son œuvre. Et c'est son royaume. Et il veille dessus. Donc moi, je n'ai pas à me soucier d'être mélangé aux idiots, aux crétins qui racontent n'importe quoi, qui vous prédisent la fin du monde pour le 15 septembre ou le 18 avril.
puis ça arrive jamais, et puis ils disent oui, mais parce que nini, gna gna, ils ont... Et puis ce qui est terrible, c'est que ces gens-là, ils ont beaucoup de monde qui les écoute. Hein? Ça doit être les mêmes qui votent pour ceux qui nous dirigent. c'est quelque chose d'épouvantable. C'est effrayant, ça fait peur. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment ce qui est faux. Ils aiment parce que ça leur paraît mystérieux, ça leur paraît, je sais pas. Mais il n'y a plus la simplicité, la foi dans la simplicité de l'évangile. Ça, les gens cherchent des trucs invraisemblables, font des calculs. C'est effrayant. Mais le Seigneur veille sur son église, sur son royaume. Mais nous ne sommes pas des brebis sans berger, nous ne sommes pas une armée sans chef. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant et qui nous guide. Et ce matin, j'ai choisi le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Vous lirez ce chapitre chez vous, parce qu'il est très long. Je crois qu'il y a 35 versets, mais vous le lirez. Et simplement, je vais vous faire un résumé de ce qui se passe dans ce chapitre. Je peux dire que ce qui se passe dans ce chapitre, ça se passe dans une période très troublée. Et ne sommes-nous pas dans une période très troublée, nous aussi, n'est-ce pas? Prions. Jésus, je te demande d'éclairer chacun et chacune, pour que chacun et chacune soit vraiment sûr de pouvoir te servir toi et ne pas être trompé. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Il se passait des choses terribles, c'était une époque d'angoisse terrible. Là, alors que j'étais assis en écoutant les chants, tout à coup j'ai entendu « ding » et comme j'attends des coups de téléphone et des messages importants, j'ai regardé quand même ce que c'était. Et j'ai vu encore un gosse de 17 ans qui s'est fait tuer à Marseille. Hier ou avant-hier, c'était Oual, un jeune homme de 15 ans. Après, dans un square, encore un jeune homme de 14-15 ans qui s'est fait tuer. On voit que ça, c'est une époque troublée. Sans parler des attentats, sans parler des guerres, sans parler des manipulations financières dont nous sommes les victimes. C'est un drôle de temps. C'était l'époque là où Josaphat était roi de Juda et de Jérusalem. Et les Ammonites, les Moabites, avaient déclaré la guerre au peuple de Juda. Juda, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a la tribu de Juda. Ça n'a rien à voir avec Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Alors, ils avaient déclaré la guerre. Et comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, encore à l'heure actuelle. C'est encore les mêmes. Et comme d'habitude, le peuple de Juda était largement inférieur en nombre. Et leur cause paraissait absolument sans espoir. Je vais juste vous lire un verset, donc dans 2 Chroniques 20, au chapitre 20 et au verset 12, il est dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voilà, ça c'était la prière, n'est-ce pas, de jeune roi désespéré. Alors, le prophète, un prophète lévite, c'est-à-dire un prophète légal, selon Dieu, parce que vous avez des gens qui se mettent le titre de prophète et ils n'ont pas été mandatés par Dieu, mais lui, c'était un lévite, il s'appelait Aziel, c'est pas facile à dire, il a pris la parole, et voilà ce qu'il a dit, toujours dans le même chapitre, verset 15-17, et il y a Aziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. » Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Ça, c'est bon. Alors, le roi s'est référé aux paroles du prophète et il dit, un peu plus loin, au chapitre 20, toujours verset 20, il dit au peuple, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. et vous serez affermi, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est un texte que j'aime beaucoup, j'ai souvent prêché dessus. Soyez fermes en l'Éternel, dans d'autres textes, dans d'autres versions, c'est confiez-vous en l'Éternel, ayez une foi inébranlable en l'Éternel. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, confiez-vous en ces prophètes, ayez foi en ce que les prophètes disent, et vous aurez du succès, et vous réussirez, vous serez affermis. C'est là les paroles que je veux vous dire, vous donner aujourd'hui. Depuis que je suis né de nouveau, en 1968, j'ai rencontré face à face, et j'ai fréquenté, les plus grands prophètes que le monde a portés en ce temps-là. Le premier, c'était Raphaël, que j'ai écouté et j'ai réussi. Raphaël était un prophète extraordinaire. Tous ceux qui l'ont connu le savent. C'était, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du barrage de Fréjus. Eh bien, il était là en tant que pasteur avec je ne sais pas combien de caravanes qui étaient avec lui, parce que c'était un gitan, un pasteur gitan prophète. Et il faisait des tournées, il s'était arrêté à Fréjus. Et alors qu'ils avaient distribué, ils avaient loué une salle, ils avaient distribué des tracts pendant 2 jours. Et puis le soir, alors qu'il allait s'endormir, juste avant de s'endormir, il prie et le Seigneur lui dit « Attelle la caravane et va-t'en ». Alors tout de suite, il se lève, il attelle la caravane, il avertit tout le monde, il dit « On s'en va ». Tout le monde lui dit « Mais Raphaël, on a loué une salle, c'est la nuit, tu veux qu'on parte ? On s'en va ». Si le prophète s'en va, on s'en va. Et tout le monde est parti sans savoir pourquoi. Jésus n'a pas dit pourquoi, mais il a dit partez, allez-vous-en. Et ils sont partis. Et le lendemain, le barrage de Fréjus a lâché et une vague de 24 mètres de boue a passé là où étaient les caravanes. Ils seraient tous morts s'ils n'avaient pas écouté le prophète de Dieu. Voilà le genre d'homme que c'était Raphaël. Une autre fois aussi, il y avait un serviteur de Dieu. Par le nommé, il s'appelait Paillon, c'était un des professeurs de l'école biblique. Alors ils étaient avec Raphaël, ils faisaient des tournées, et puis ils arrivent sur une place de village, ils se mettent sous un arbre où il y avait de l'ombre. Paillon, il se met sous l'arbre, et puis Raphaël lui dit ne te mets pas là. Il lui dit pourquoi? Parce qu'il y a de l'ombre, tu veux t'y mettre? Il dit non, il ne faut pas se mettre là, c'est tout. Paillon a dit oh, si le prophète dit ça, j'obéis. Pourtant, ce n'était pas intelligent. Hein. Toute la place était en plein soleil, il n'y avait qu'un endroit avec de l'ombre, c'était sous cet arbre. Donc il a bougé sa caravane, il est allé ailleurs, et quelques minutes après, alors que le ciel était bleu, la foudre est tombée sur cet arbre qui s'est partagé en deux, la caravane, avec les enfants dedans, ils auraient été tous écrabouillés. Vous voyez, le genre de prophète, c'était un homme, une des dernières choses qu'il a faites, c'était dans sa caravane, alors qu'il était très vieux, au bout de la vie. Quelqu'un lui a amené, excusez-moi, c'est parce que j'attends des messages, je vais bloquer ça parce que sinon j'en finis pas. Je ne sais plus comment on bloque, donc je vais le mettre là, voilà. Téléphone. Une dame lui emmène une personne qui a eu un accident et qui avait eu des cordes vocales coupées et qui était muette depuis 4 ans. Et puis elle est opérée, mais ça ne donnait rien. Et la dame expliquait toute cette histoire à Raphaël, et Raphaël ça lui cassait les pieds d'écouter toute cette histoire, c'était long, il donnait des détails et machin. Au bout d'un moment, Raphaël s'est levé, il a pris la dame par la gorge et il a crié « Espèce de démon, tu vas pas sortir de là, au nom de Jésus, sors !» Et la femme s'est remise à parler, elle était complètement guérie. Voilà des hommes de Dieu que j'ai fréquentés. Raphaël, c'est un homme de Dieu. Il a dit à un garçon de venir dans notre communauté, il est venu, il nous a quittés, maintenant. Il faut écouter les serviteurs de Dieu. Si on n'écoute pas les serviteurs de Dieu, c'est la pagaille, c'est les difficultés, c'est les problèmes. Bien sûr que si on écoute les serviteurs de Dieu, on a aussi des problèmes. Mais le Seigneur est avec nous, on a cette certitude, et ça nous donne une consolation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut écouter des hommes de Dieu qui sont comme ça, mandatés, et qui ont fait leur preuve. Alors il y a eu aussi Camélia. Camélia, c'était une prophétesse. En fait, dans la mission de Zigan, c'est la seule femme qui a été reconnue comme ayant un ministère. C'est que les gitans sont plus machos que moi encore. Hein. Et parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent que je suis macho. Mais c'est pas vrai, je suis pas macho. C'est peut-être l'allure, mais je suis pas un macho. Et Camélia, elle était vraiment reconnue comme une prophétesse de Dieu. C'était une femme extraordinaire. Elle arrivait chez les gens, elle les scannait, avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Elle réglait les problèmes, c'était quelque chose. Moi, je l'ai vu faire parce que j'ai fait des tournées avec elle, même ici, dans la région. On a vu des gens qui ont été. Leur vie était bouleversée. Et je voyais comment elle faisait, je regardais comment elle faisait. En fait, quand j'étais avec elle, j'étais à l'école des prophètes. J'écoutais, je regardais. Et ça m'a beaucoup appris. Et puis, T.L. Osborne aussi, que j'ai écouté, que j'ai fréquenté. Et j'ai réussi parce que j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai cru ce qu'il disait, alors que d'autres l'ont rejeté. Vic Ramsey, je ne sais pas si vous avez connu Vic Ramsey. Vic Ramsey, c'était un Anglais avec un. Ceux qui l'ont connu savent, c'était quelque chose de fantastique. Dans les réunions, il s'interrompait de prêcher, il arrêtait de prêcher, et puis il disait, vous, madame, vous avez ci et ça, vous, monsieur, vous avez comme ça et comme ça. C'était absolument fantastique et il a prophétisé sur ma vie aussi, me disant des choses qui allaient m'arriver. Au sujet du baptême pour les morts aussi, il m'a expliqué des choses qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé et conforté. Voilà, y a des hommes de Dieu comme ça. Je ne suis pas un électron libre, je m'entoure toujours, mais je m'entoure des meilleurs. Je ne vais pas aller perdre mon temps à fréquenter des espèces de bricoleurs qui vous disent des âneries. Ça, non. Oh. Il y en a qui ont essayé avec moi, mais j'ai tellement fréquenté des hommes et des femmes de Dieu qui étaient au top que les faux, je les reconnais, mais à 100 mètres, quoi. Et puis David Wilkerson, c'est extraordinaire d'avoir pu rencontrer un tel homme. C'est un prophète fantastique, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle La Vision, où il décrit les choses qui sont en train d'arriver. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Avec ma femme, on l'a vu. Non, j'ai eu un privilège. Vraiment, peu d'hommes, je crois, de mon âge, peuvent dire qu'ils ont rencontré des hommes et des femmes aussi extraordinaires dans leur vie. Surtout, tous, j'ai tous rencontré, c'est fantastique. Et comme je vous disais, quand je rencontre un faux prophète, je le reconnais tout de suite. Alors, dans les faux prophètes, vous avez des gens qui sont envoyés par le diable, carrément. Et puis vous avez aussi des farfelus qui sont simplement charnels, qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Donc, faut pas toujours dire, oui, c'est un faux prophète diabolique et tout. Non, il y a toutes sortes de nuances, et toutes sortes de nuances. Et c'est par l'expérience qu'on apprend ces choses-là. Bien sûr, je n'ai pas parlé face à face avec William Branham, parce que bien qu'il soit venu dans ma ville, j'étais tout petit. Et j'ai pas su, j'avais 5 ans, hein, ce n'est pas possible. Donc, mes parents étaient loin d'aller fréquenter cette sorte de réunion, donc j'y suis pas allé. Et puis même à 5 ans, je sais pas si j'aurais compris quelque chose. Mais par contre, j'ai parlé pendant des longues heures avec T.L. Osborne, qu'il a connu personnellement et qui m'a raconté des choses. Et j'ai même tout filmé, tout est sur vidéo. Il m'avait dit, quand je serai décédé, vous pourrez mettre ça sur votre site. Et on va le faire bientôt. On va mettre ces choses sur le site parce que c'est très précieux. Et T.L. Osborne a absolument témoigné que Frère Branham était un envoyé de Dieu tout à fait particulier, un prophète majeur. Donc, c'est fantastique aussi. Ma mère, qui avait prophétisé que nous allions recevoir une parole de Dieu qui nous aiderait. Et quelques jours plus tard, voilà qu'on trouve tous les bouquins de Branham dans une des maisons qu'on avait achetées. Vous voyez, on est guidé. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Bon, alors aussi, je n'ai jamais parlé en face avec Joseph Smith, puisqu'il était, c'était dans les années 1800 et je n'étais pas encore né. Mais j'ai eu le privilège de lire, grâce à mon ami Sharef Douache, qui est un ancien Branhamiste. Il m'a fait parvenir une prophétie qui a été donnée par un mormon dans les années 1800, à peu près 30 ans avant la naissance de William Branham, un prophète mormon qui a dit que, au temps où il y aurait en Allemagne un parti qui s'appellerait le nazisme, il y aurait un homme de Dieu qui se lèverait, qui aurait pour nom William Branham et qu'il fallait le laisser agir parce que c'était Dieu qui était avec lui. Mais 30 ans avant la naissance de William Branham, ce prophète mormon a dit cela. Il y a des choses qui font qu'on sent, on sait, on a des preuves comme quoi on est guidé. guidé, on est conduit. Et si on écoute les prophètes, mais si on n'écoute que les faux prophètes, évidemment, on va droit dans le mur. Pas tout de suite, parce que des fois le mur, il est plus ou moins loin. Mais nous, on sait qu'on est conduit, on est guidé. Et j'ai vu de mes yeux ce qui arrive à un homme qui croit les vrais prophètes de Dieu. J'ai vu la puissance de la prêtrise opérer des milliers de fois dans ma vie. C'est pourquoi j'ose encore retourner en Afrique. Ils attendent des guérisons, ils attendent des délivrances, ils attendent... Mais il y aura tout ça. Comment je le sais? Parce que je le sais, c'est tout. Je sais que Dieu est avec moi et que ça va se passer et que vous allez être récompensés si vous participez avec moi en faisant des dons financiers et aussi si vous m'accompagnez dans la prière. Je le sais parce que j'ai une expérience en tant qu'homme de Dieu avec tous ces prophètes. Oh, vraiment, là, ils insistent. Hein. Ils insistent lourdement. Je vais simplement arrêter le téléphone et comme ça sera fini. Que puis-je faire pour vous? Je me demande qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Alors, je lui demande de s'arrêter. Voilà. C'est bon, la technologie. Je sais, parce que j'ai fréquenté, j'ai connu tout au long de ma vie des réels hommes de Dieu, et je sais faire la différence, et je sais quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Donc, j'ai connu ce qu'on appelle le souffle de l'Esprit sur les prophètes. Je sais le reconnaître. Et pour ce qui concerne les prophètes que j'ai reconnus et que j'ai connus de leur vivant, je peux témoigner, n'est-ce pas, de ce que c'est que cet esprit qui les animait. J'ai servi Dieu avec eux. Je les ai vus à l'œuvre. J'ai mangé avec eux. Je les ai entendus prier. Et je peux témoigner que chacun d'eux était un homme ou une femme, comme Camilla, exceptionnel. Exceptionnel. Ils ne sortaient pas d'un trou tout d'un coup comme ça. Bien sûr, vous me direz, dans la Bible, il y a des gens qui sortaient d'un trou comme ça, puis tout d'un coup, ils étaient prophètes. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde la vie qu'ils avaient eue avant, eh bien, ils avaient été formés. C'est vrai, ils avaient été formés. Et que tous ceux qui ont vécu, et que j'ai connus, qui ont vécu du temps où j'étais, et puis que j'ai pu connaître, que j'ai pu fréquenter, je peux vous dire qu'ils ont eu des longs et très difficiles, des moments d'épreuve très difficiles, des moments de formation très difficiles, de discipline, pour pouvoir agir au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour guider les gens sur le bon chemin et vers le bonheur. Quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, il faut le travailler. Il faut comment il dit l'apôtre, exerce le don que tu as reçu au travers de l'imposition de mes mains. Ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas parfait comme ça du jour au lendemain. Et il faut avoir, et tous ces hommes et ces femmes de Dieu ont d'abord eu beaucoup d'humilité. Par exemple, Camélia, elle a été mise de côté pendant des années avant d'être reconnue comme prophétesse. Des années, elle a été mise de côté, prise pour rien du tout. Et quand j'étais jeune homme, je m'asseyais dans les réunions et je regardais, j'étais très 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 impressionné. Par exemple, quand je voyais Raphaël se lever et approcher du pupitre pour prêcher. Alors, il y avait eu la musique avant, mais quand je le voyais, j'avais un sentiment intense qui traversait tout mon corps. Je savais que Dieu allait parler, que Dieu allait agir au travers de ce bonhomme. Je le savais, c'était quelque chose de... C'était magnifique de vivre si près de gens si inspirants. Alors, je regardais avec attention, j'écoutais avec attention, avec respect, ce que je voulais apprendre, parce que j'avais été appelé à servir Dieu et je ne savais rien. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école publique qui nous aide à servir Dieu, mais c'est de regarder les autres hommes de Dieu, comment ils sont, comment ils vivent, comment ils sont loin, comment ça se passe dans leur vie. Et je me souviens du jour où la fille de Bernard Clément, je ne sais plus comment elle s'appelait cette fille, elle était très belle. Bernard Clément, c'est un serviteur de Dieu sur Paris. Il avait une église, 101 boulevard de Charonne. On allait souvent là parce que c'était un orateur extraordinaire. Et sa fille, un jour, sachant que j'aimais bien Osborne, parce que j'écoutais les bandes d'Osborne, à l'époque, ce n'était pas des cassettes, c'était des bandes, elle m'avait offert une photo d'Osborne, une photo sur papier glacé, mais une vraie photo, pas une photo découpée dans un journal. Et on voyait frère Osborne imposer les mains à une lépreuse qui avait le visage couvert d'un voile noir parce qu'elle était tellement abîmée. J'ai toujours cette photo. Et c'est la première fois que j'ai vu le frère Osborne, parce qu'avant, comme on n'avait pas Internet, on ne voyait rien, on ne savait rien, on ne pouvait pas avoir accès à toutes ces choses-là. Et je ne pensais pas, en écoutant les bandes et en voyant cette photo, qu'un jour, ça deviendrait mon ami. Et la vie est tellement... J'étais très jeune, je devais avoir 22, 23 ans quand j'ai reçu cette photo. Et quand finalement, j'ai rencontré personnellement Théel Osborne, il parlait avec une sagesse, avec une intelligence, avec une puissance, mais il gueulait pas, il hurlait jamais. Même Branham, qui avait un ministère de guérison extraordinaire, disait, moi je me trompe, c'est Osborne qui a raison. Frère Branham priait un par un pour tous les gens. Osborne, il faisait une prière pour tous ceux qui étaient là, et c'était le même résultat. Il disait après, Frère Branham disait, Osborne, il fait une toute petite prière, après il s'assied et regarde les miracles. Et c'est lui qui a raison. Il dit, moi je me fatigue. Eh bien, moi j'ai voulu suivre le meilleur conseil. Donc je regarde, je prends dans Branham ce qu'il a pour pouvoir faire. Et puis ensuite, je l'écoute pour pouvoir faire encore mieux. C'est-à-dire comme Osborne. Et les choses se produisent la même chose. Il faut apprendre, il faut avoir l'humilité d'apprendre de ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu pour pouvoir réussir. C'est ce qu'on lit dans nos chroniques. Finalement, quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était un homme tout simple, et il m'a promis des bénédictions pour ma vie, pour mon ministère, et tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli, et ça continue à s'accomplir. Et je pense souvent que des milliers et des millions de personnes auraient pu éviter la souffrance que connaissent les fumeurs, les alcooliques, les drogués, si seulement ils avaient écouté et cru de tels hommes de Dieu. Osborne a été le premier à parler de la loi de la dîme en France, en 1970. Je sais que c'était en 70 parce que moi, j'avais pas pu aller l'écouter, j'étais à l'armée. Enfin bon, c'est une toute autre histoire. Non, c'était en 71, pardon. Eh bien, quand j'ai entendu les bandes, moi, j'ai cru ça. Je l'ai mis en pratique et j'ai réussi. Et si les chrétiens et si le monde voulaient bien croire cet envoyé de Dieu, ils ne seraient pas en train de glisser dans la misère. Le monde est en train de glisser dans la misère. Mais seulement, voilà, ils préfèrent les chrétiens et les gens du monde. Ils préfèrent en croire ceux qui ne sont pas envoyés par Dieu, mais qui sont brillants. Quel dommage. Si les gens voulaient bien écouter cette loi de la dîme, telle qu'Osborne l'a donnée, eh bien, les besoins de la terre entière seraient satisfaits sans avoir besoin d'avoir recours aux impôts pour pouvoir aider, faire de l'entraide, etc., etc., parce que la terre serait bénie. Mais voilà, ils n'écoutent pas. Dieu accomplirait ses promesses pour tous, mais ils n'écoutent pas. Ils rejettent Dieu, ils rejettent les envoyés de Dieu. Ils disent pas on rejette Dieu, mais ils veulent pas écouter ses paroles. Théel Osborne a enseigné la loi de la dîme, comme je vous le disais, en 1971. Et cela est parti dans 70 pays. Comment je le sais? Parce que la fondation a été établie dans 70 pays. Le peuple de Dieu a presque massivement rejeté cet enseignement. Et il a... En France, ils ont été plus loin, ils ont même rejeté l'homme de Dieu, ils n'ont plus voulu de lui. Et la crise est arrivée 2 ans après. L'économie s'est effondrée. Vous allez me dire, oh, mais Michel, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Oui, je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Vous avez été visité par un prophète de Dieu qui vous a dit ce que vous deviez faire, vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans la misère, c'est votre faute. C'est dur ce que je dis là, mais c'est comme ça. Quand Dieu envoie des serviteurs de Dieu pour dire quelque chose, pour rétablir quelque chose, et qu'on n'y prend pas garde, eh bien Dieu nous laisse et nous abandonne à toute cette misère. Alors, par contre, les chrétiens, ils se sont donné une foule de faux prophètes, ils les ont crus, ces faux oints, oints ça veut dire Christ, c'est-à-dire ces faux Christ, et ces faux Christ leur ont enseigné quoi? L'abondance, l'évangile de l'abondance. Ça ressemble au message de Frère Osborne, mais ce n'est pas le message de Frère Osborne. Ce n'est pas le message de Dieu, leur message d'abondance. Le peuple les a crus et ces faux Christ les ont dépouillés. Et Dieu n'a pas béni le peuple. Dieu n'a pas béni le peuple parce qu'ils étaient en train d'écouter des gens qu'il n'avait pas envoyés lui-même. Et Dieu ne les a pas bénis, bien qu'ils donnent leur dîme. Ces hommes, ces fauvins, ont fait fortune. Je vais vous parler de quelques-uns d'entre eux. Joseph Prince représente personnellement 5 millions de dollars. Tempitop Balogom Joshua, 10 millions de dollars personnels. Kenneth Copeland, 25 millions de dollars. Enoch Adeja Adeboy, 39 millions de dollars. Bénin, vous savez, Bénin, 42 millions de dollars. Chris Oyatilome, j'aurai des noms à coucher dehors avec un billet de logement, 50 millions de dollars. Bishop T.D. Jack, 147 millions de dollars, qu'elle représente d'une façon sa fortune personnelle, c'est-à-dire en bâtiment, en avion, en habits, en tout ce que vous voulez. Bishop David et Oxedepo, 150 millions de dollars. Par contre, leurs fidèles ne récoltent pas ce qu'ils ont semé, ils sont toujours aussi pauvres. Et ils continuent d'écouter. Ils n'ont pas reconnu la voix du bon berger qui leur était envoyé. Ils ont suivi des loups ravisseurs. C'est dans la logique même biblique. Ça s'est toujours passé comme ça. Oh, mes frères et sœurs, il y a une ligne que nous ne devons pas dépasser. Parce que d'un côté se tient le Seigneur Jésus-Christ, et juste derrière cette ligne, c'est l'adversaire qui se tient. Et ce que l'adversaire dit, ça ressemble beaucoup à ce que Jésus-Christ dit. Mais c'est faux! L'adversaire parle un peu comme un envoyé de Dieu. Mais il y a très peu de personnes qui savent discerner qui est qui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais cœur. S'ils avaient un bon cœur, ils sauraient discerner qui est qui. C'est un jugement que je porte là. Mais la Bible dit que le jugement tombe sur la maison de Dieu pour commencer. Aujourd'hui, alors que Dieu rétablit l'ordonnance du mariage éternel, on voit de plus en plus de chrétiens qui divorcent. Mes frères et sœurs, aucun succès ne peut compenser l'échec du foyer. Ça, je vous le dis depuis le début de ma vie, depuis le début de mon ministère. La famille d'abord. Et dans la famille, l'homme, c'est le chef. Alors, c'est pour ça qu'on dit que je suis macho. Mais je ne suis pas macho. Je répète simplement ce que la Bible enseigne, ce que Paul, l'envoyé de Dieu, dit dans 1 Corinthiens 11, 3. Alors les chrétiens maintenant mettent en doute l'apôtre Paul à cause de paroles telles que celles-ci. Ils disent que l'apôtre Paul était un misogyne. Bande de dingos que vous êtes de dire des choses pareilles. Pardon, mais les vierges folles, c'est quoi? Sinon ceux qui n'écoutent pas ni Dieu, ni ses envoyés. Et les chrétiens féministes, je dirais même, efféminés, disent que Paul était un macho. Ok, croyez qui vous voulez. Croyez qui vous voulez. Moi, je crois les prophètes. Ceux de la Bible, ceux qui ont vécu dans l'Église, et ceux qui vivent encore aujourd'hui. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils parlent franchement, sans équivoque. Et puis, ça peut sembler dur. C'est pour ça que les gens ne les aiment pas. Mais c'est parce que ce sont des envoyés de Dieu. Ils ont un message à faire passer. Et Dieu n'a pas forcément toujours, nous caresse pas toujours dans le sens du poil. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée avec T.L. Osborne. Nous étions chez lui à Tulsa avec mon épouse et il a voulu nous faire don d'un local qui se trouvait à rue Legendre, je ne sais plus le numéro. Pardon? 118.
178.
Au 178 rue Le Genre à Paris. Il a voulu nous faire don de ce local et pour que nous puissions faire une petite église. Et je lui dis, oui, mais il y a un autre pasteur dans cette église, dans cet endroit. Et qu'est-ce qu'il va dire quand je vais arriver et lui dire de... Il me dit, mais je lui ai déjà dit qu'il veut partir et que c'est vous qui allez le remplacer. Je dis, est-ce que vous ne pourriez pas me faire un petit papier que je puisse lui montrer, parce que ça va être la guerre quand je vais arriver. Il m'a dit, frère Janton, je ne vous ferai aucun papier. Moi, je vous dis, vous allez là, vous prenez ce local, s'il fait des problèmes, vous le fichez dehors, si vous n'êtes pas capable de le faire, retournez travailler à l'usine. Voilà comment Osborne m'a parlé. Hi. Michou, t'es témoin. Mais on n'aime pas entendre des paroles dures comme ça, on voudrait que Dieu... Le gentil Jésus nous parle, n'est-ce pas, et ne nous reprenne pas sévèrement. Non, Dieu ne parle pas souvent comme ça. Quand il parle, c'est très souvent parce qu'il y a quelque chose à dire d'important. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, retournez à l'usine. Oh, je n'avais pas du tout envie de retourner à l'usine. Je voulais servir Dieu. Je obéis et j'étais béni. Vous voyez que et puis celui qui a voulu nous faire des problèmes, c'est ce qu'il était copain avec Chirac. Et Chirac, il était le maire de Paris à l'époque. Il m'a dit, toi, je vais aller te dénoncer à Chirac. Et tu, dans deux semaines, tu te retrouves à ta frontière, tu te retrouves dans ton pays en Suisse. Je vais te faire virer de la France. Ah oui, ben, je suis toujours en France. Chirac est mort. Non, il n'est pas mort encore, pardon. Mais l'autre, le serviteur de Dieu qui m'a dit ça, lui, il est mort. Tant pis. Vous voyez que Dieu veut de la loyauté, il veut de la fidélité, sans discussion. Et ceux qui écoutent les paroles dures des envoyés de Dieu goûtent ensuite le doux fruit de l'obéissance. Mais c'est ensuite, c'est après. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Et ceux qui prennent les paroles des envoyés de Dieu à la légère, eh bien ceux-là connaissent l'amertume qui est produite par le rejet de la vérité. Connaissent peut-être pas tout de suite. Au début, le diable leur met des paillettes dans les yeux. Tout est beau, tout est joli. Ah, c'est nous qui avons gagné. Non, ils vont dans le mur. Mes frères et sœurs, nous pouvons faire tant de choses si nous sommes déterminés collectivement et personnellement, si nous écoutons les envoyés de Dieu. Alors je reviens aux paroles de Josaphat. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez ferme dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès dans votre bagarre. Parce que c'est moi qui vais combattre pour vous, c'est pas vous qui allez combattre. Parce que j'envoie ma parole et elle s'accomplit. Si vous la croyez, si vous la croyez pas, tintin. Et beaucoup de petites choses nous permettent de mesurer notre volonté d'accepter la parole des prophètes. C'est des petites choses qui nous permettent de mesurer, de voir où on en est. La Bible dit que c'est les petits renards qui s'introduisent, n'est-ce pas, dans les vignes pour bouffer les fruits. Les petites choses, les petits renards. Oh non, ça, il a dit ça, oui, mais ce n'est pas vraiment très important. Il a dit d'envoyer 10 euros pour aller en Afrique. Oh, c'est pas important, si moi je n'envoie pas 10 euros, il y en a bien d'autres qui en verront. Puis 10 euros, c'est quoi? Ça ne sert à rien. Ce sont les petites choses qui permettent de mesurer votre volonté d'accepter la parole des serviteurs de Dieu. Jésus a dit, combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? C'est quand même terrible. Comment voulez-vous que moi je puisse espérer que vous vouliez faire ce que je vous dis, si vous ne voulez déjà pas faire ce que Jésus dit. Jésus dit, j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Mais c'est dramatique. Ça a toujours été comme ça, l'histoire de l'humanité. Et puis c'est encore comme ça, et demain ça sera encore comme ça. Puis après, alors frère Janton, priez pour moi. Bien sûr, je prie pour vous. Jusqu'à quand vous allez clocher les deux pieds? Vous savez ce que ça veut dire, clocher les deux pieds? Ça veut dire boiter les deux pieds. En Suisse, on dit marcher un pied sur le trottoir, un pied sur la route. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si Baal est Dieu, alors ralliez-vous à Baal. 1 Roi 18-21, faites un choix. Et prouvez quel est le choix que vous avez fait. Vous voyez, j'ai connu personnellement 5 des plus grands prophètes du 20e et 21e siècle, et je reconnais que tous étaient sujets à la nature humaine. Mais je ne m'en suis pas préoccupé. Ils avaient des faiblesses, mais ça ne m'a jamais troublé. Ah, mais Michel, j'entends, il y a un caractère. C'est des excuses. Je sais que Dieu a utilisé des hommes mortels au cours de l'histoire pour accomplir ses desseins, et c'était les meilleurs dont il disposait, et c'était merveilleux, et c'est toujours merveilleux. Ces 4 hommes et cette femme, Camélia, que j'ai connus, avec lesquels j'ai travaillé, ont fait preuve d'une totale abnégation dans leur zèle à édifier le royaume de Dieu. Moi, j'ai connu Osborne pendant des années, toujours avec la même veste en cuir. Hein, chérie? C'était pas des 25 millions de dollars, des 140 millions de dollars, non, non. Lui, il avait le plus petit salaire de la fondation Osborne. Il avait 70 personnes qui travaillaient dans la fondation. Lui, il avait le plus petit salaire. Je sais, parce que ils m'ont montré la comptabilité et j'ai pu constater ça. Ah là là, voilà, différence. Ils ont fait preuve d'une totale abnégation pour apporter du bonheur aux gens. Et nous ne sommes pas sans prophète aujourd'hui. Le Seigneur veille sur son œuvre, c'est son royaume, c'est son église. Et nous ne sommes pas semblables à des brebis qui sont sans berger. Nous ne sommes pas une armée sans chef. Et dans une armée, on ne fait pas ce qu'on veut. Oh, je me sens poussé à faire ça. Non, tu n'as pas à te sentir poussé à faire ceci ou à faire cela. Tu dois faire ce que le serviteur de Dieu te dit. Et si tu fais ce que le serviteur de Dieu te dit, un chemin va s'ouvrir devant toi que personne ne pourra t'empêcher de prendre. Mais si tu ne fais pas ce que le serviteur de Dieu te dit, eh bien, tu vas te tromper. Et tu vas t'engager dans des trucs tout faux. Puis après, tu vas dire, ah, si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Oui, ben oui. Me sens poussé. C'est terrible, le nombre de personnes... Je me rappelle d'une, c'était la pire. Le Saint-Esprit m'a poussé au marché pour aller acheter des melons qui étaient meilleurs sur le marché de Saint-Ouen que sur le marché de je ne sais plus où. Enfin, mon Dieu, le monde est en train de crever et le Saint-Esprit lui parle de melons. Non mais, pardon. Que Dieu nous aide à être fidèles, à être loyal, à écouter attentivement les conseils de notre Père Céleste. Ces conseils qu'il nous donne par la Bible, mais aussi par ses serviteurs, les prophètes. Soyez bénis, vous qui écoutez et vous qui me croyez. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire avec joie, avec plaisir, pour te servir et pour que ton œuvre avance. Merci Jésus. Amen.